Étienne Bonneau de Condillac, Traité des sensations, partie 2, du toucher ou du seul sens qui juge par lui-même des objets extérieurs. Chapitre 7. Des idées que peut acquérir un homme borné au sens du toucher. Le plaisir et la douleur également nécessaires à l'instruction de la statue. Sans le plaisir, notre statue n'aurait jamais la volonté de se mouvoir. Sans la douleur, elle se transporterait avec sécurité et périrait infailliblement. Il faut donc qu'elle soit toujours exposée à des sensations agréables ou désagréables. Voilà le principe et la règle de tous ces mouvements. Le plaisir l'attache aux objets, l'engage à leur donner toute l'attention dont elle est capable et à s'en former des idées plus exactes. La douleur l'écarte de tout ce qui peut lui nuire, la rend encore plus sensible au plaisir, lui fait saisir les moyens d'en jouir sans danger et lui donne des leçons d'industrie. En un mot, le plaisir et la douleur sont ses seuls maîtres. Ils déterminent seuls le nombre et l'étendue de ses connaissances. Le nombre des idées, qui peuvent venir par le tact, est infini. Car il comprend tous les rapports des grandeurs, c'est-à-dire une science que les plus grands mathématiciens n'épuiseront jamais. Il ne s'agit donc pas d'expliquer ici la génération des idées qu'on peut devoir ou toucher. Il suffit de découvrir celles que notre statue acquerra elle-même. Les observations que nous avons faites nous fournissent le principe qui doit nous conduire dans cette recherche, c'est qu'elle ne remarquera dans ses sensations que les idées auxquelles le plaisir et la douleur lui feront prendre quelque intérêt. L'étendue de cet intérêt déterminera l'étendue de ses connaissances. Ordre dans lequel elle acquerra des idées. Quant à l'ordre dans lequel elle acquerra, il aura deux causes. L'une sera la rencontre fortuite des objets, l'autre la simplicité des rapports. Car elle n'aura des notions exactes de ceux qui supposent un certain nombre de comparaisons qu'après avoir étudié ceux qui en demandent moins. Il est possible de suivre les progrès que la seconde de ces causes pourra lui faire faire. Il n'en est pas de même de ceux qu'elle devra à la première. Mais c'est une chose assez inutile, et chacun peut faire à ce sujet les suppositions qu'il jugera à propos. Premières idées qu'elle acquiert. Ses idées sur la solidité, la dureté, la chaleur, etc. ne sont point absolues, c'est-à-dire qu'elle ne juge qu'un corps est solide, dur, chaud, qu'autant qu'elle le compare avec d'autres, qui ne le sont pas au même degré ou qui ont des qualités différentes. Si tous les objets étaient également solides, durs, chauds, etc., elle aurait les sensations de solidité, de dureté et de chaleur. Sans le remarquer, elle confondrait tous les corps à cet égard. Mais parce qu'elle rencontre tour à tour de la solidité et de la fluidité, de la dureté et de la mollesse, de la chaleur et du froid, elle donne son attention à ces différences, elle les compare, elle en juge, et ce sont autant d'idées par où elle apprend à distinguer les corps. Plus elle exercera ses jugements à ce sujet, plus son tact acquerra de finesse, et elle se rendra peu à peu capable de discerner dans une même qualité jusqu'aux nuances les plus légères. Voilà les idées qui demandent le moins de comparaison, et par conséquent les premières qu'elle aura occasion de remarquer. Sa curiosité en devient plus grande. Ses connaissances appliquent avec une nouvelle vivacité son attention sur les objets qu'elle touche. Elles les lui font considérer sous tous les rapports qui la frappent sensiblement. Plus elle en découvre, plus elle se fait une habitude de juger qu'elle en découvrira encore, et la curiosité devient pour elle un besoin plus pressant. Combien elle a d'activité ? Ce besoin sera le principal ressort des progrès de son esprit. Cependant, je n'entreprendrai pas d'en suivre tous les effets, parce que je craindrais de m'égarer dans trop de conjectures. J'observerai seulement que la curiosité doit être chez elle bien plus active que chez le commun des hommes. L'éducation l'étouffe souvent en nous par le peu de soin qu'on prend à la satisfaire, et dans l'âge où nous sommes abandonnés à nous-mêmes, la multitude des besoins la contraint et ne nous permet pas de suivre tous les goûts qu'elle nous inspirerait. Mais dans la statue, je ne vois rien qui ne tende à l'augmenter. Les sentiments agréables qu'elle éprouve souvent et les sentiments désagréables, auxquels elle est quelquefois exposée, doivent l'intéresser vivement à pouvoir reconnaître, aux plus légères différences, les objets qui les produisent. Elle va donc se livrer à l'étude des corps. La statue se fait des idées de figure. Lorsqu'elle n'avait que le sens de la vue, nous avons observé que son œil apercevait des couleurs, sans pouvoir remarquer l'ensemble d'aucune figure, sans avoir même proprement aucune idée d'étendue. La main a au contraire cet avantage, qu'elle ne peut manier un objet, qu'elle ne remarque l'étendue et l'ensemble des parties qui le composent. Il suffit pour cet objet qu'elle en sente la solidité. En serrant un caillou, notre statue se fait l'idée d'un corps différent d'un bâton, qu'elle a touché dans toute sa longueur. Elle sent dans un cube des angles qu'elle ne peut trouver dans un globe. Elle n'aperçoit pas la même direction dans un arc et dans un jonc bien droit. En un mot, elle distingue les choses solides, suivant la forme que chacune fait prendre à sa main, et elle considère comme formant un seul tout les portions détendues qu'elle ne peut séparer ou qu'elle sépare difficilement. Elle acquiert donc les idées de lignes droites, de lignes courbes et de plusieurs sortes de figures. En comparant les qualités contraires. Mais si les premiers corps qu'elle a l'occasion de toucher faisaient tous prendre la même forme à sa main, si elle ne rencontrait par exemple que des globes de même volume, elle se bornerait à remarquer que l'un serait rude, l'autre poli, l'un chaud, l'autre froid, et elle ne donnerait aucune attention à la forme que sa main prendrait constamment. Ainsi, elle toucherait des globes sans jamais s'en faire aucune idée. Qu'elle manie au contraire tour à tour des globes, des cubes et d'autres figures de diverses grandeurs, elle sera frappée de la différence des formes que prennent ses mains. Alors elle commence à juger que toutes les figures ne se ressemblent pas. Sa curiosité la porte aussitôt à chercher tous les côtés par où elles diffèrent, et elle s'en forme peu à peu des notions exactes. Pour acquérir l'idée d'une figure, il faut donc qu'elle en remarque plusieurs, qui au premier attouchement contrastent par quelque endroit d'une manière sensible. Il faut qu'une première différence aperçue lui fasse naître le désir d'en apercevoir d'autres. Elle ne désire, par exemple, de connaître un cube qu'après l'avoir comparé avec un globe et avoir trouvé dans l'un des angles qu'elle ne trouve pas dans l'autre. En un mot, elle ne cherche de nouvelles idées dans ses sensations qu'autant qu'elle est prévenue par les premières différences qui s'offrent à elle lorsqu'elle touche successivement plusieurs objets. Comment on peut juger les idées qu'elle se fait des corps ? La notion d'un corps est plus complexe, à proportion qu'elle rassemble en plus grand nombre les perceptions et les rapports que le tact démêle. Pour connaître quelles idées notre statue se formera des objets sensibles, il faut donc observer dans quel ordre elle jugera de ses perceptions et de ses rapports, et comment elle en fera différentes collections. Deux sortes de sensations qu'elle peut comparer. Ou les sensations qu'elle comparera sont simples à son égard, parce que ce sont des impressions uniformes, dans lesquelles elle ne saurait distinguer plusieurs perceptions, tel est le chaud ou le froid, ou ce sont des sensations composées de plusieurs autres qu'elle peut démêler, telle est l'impression d'un corps, où il y a tout à la fois solidité, chaleur, figure, etc. Ces jugements sur les sensations simples. Les sensations simples sont de même ou de différentes espèces, c'est par exemple de la chaleur et de la chaleur, ou de la chaleur et du froid. Les jugements qu'elle peut porter à leur occasion sont bien bornés. Si les sensations sont de même espèce, elle sent qu'elles sont distinctes et semblables. Elle sent encore si les degrés en sont les mêmes ou différents. Cependant, elle n'a pas de moyens pour les mesurer, et elle n'en juge que par des idées vagues de plus et de moins. Elle sent que la chaleur de sa main droite n'est pas la même que la chaleur de sa main gauche, mais elle n'en connaît qu'imparfaitement les rapports. Si les sensations sont d'espèces différentes, elle aperçoit seulement que l'une n'est pas l'autre, elle juge que le chaud n'est pas le froid, mais dans les commencements, elle ignore que ce sont deux sensations contraires, et pour le découvrir, il faut qu'elle ait occasion de remarquer que le chaud et le froid ne peuvent pas se trouver en même temps dans le même corps et que l'un détruit toujours l'autre. Ainsi, ce jugement, le chaud et le froid sont des sensations contraires, ne lui est pas aussi naturel qu'il paraît l'être. Elle le doit à l'expérience. Dans toutes ces occasions, il est évident qu'il lui suffit de donner son attention à deux sensations pour former tous les jugements qu'elle est capable de porter. Ces jugements sont les sensations composées. Quand deux objets font chacun une sensation composée, elle aperçoit d'abord que l'un n'est pas l'autre, c'est là son premier jugement. Mais nous avons vu que l'attention diminue à proportion du nombre des perceptions entre lesquelles elle se partage. Elle ne peut donc embrasser toutes celles que produisent deux corps, qu'elles ne sont faibles à l'égard de chacune. La statue ne se formera par conséquent les notions des deux objets qu'autant que le plaisir bornera successivement son attention aux différentes perceptions qu'elle en reçoit et les lui fera remarquer chacune en particulier. Elle juge d'abord de leur chaleur et ne les considérant qu'à cet égard, elle juge ensuite de leur grandeur en ne les considérant que sous ce rapport. Et parcourant de la sorte toutes les idées qu'elle y remarque, elle forme une suite de jugements dont elle conserve le souvenir. De là résulte le jugement total qu'elle porte de l'un et de l'autre et qui réunit dans chacun les perceptions qu'elle y a successivement observées. Pour les uns et pour les autres, l'opération de l'esprit est la même. Les jugements qui lui donnent les notions composées de deux corps ne sont donc qu'une répétition de ce qu'elle a fait sur les perceptions qu'elle regarde comme simples. C'est l'attention donnée d'abord à deux idées, ensuite à deux autres, et ainsi successivement à toutes celles qu'elle est capable d'y remarquer, et s'il en reste, dont elle n'a pas jugé, c'est qu'elle ne leur a point encore donné d'attention, c'est qu'elle ne les a pas remarquées. Par conséquent, lorsqu'elle compare deux objets, qu'elle en juge, et qu'elle s'en forme des notions complexes, il n'y a point en elle d'autre opération que lorsqu'elle juge de deux perceptions simples. Car elle ne fait jamais que donner son attention. La statue devient capable de réflexion. Quand elle n'avait que l'odorat, elle conduisait son attention d'une idée à une autre, elle en remarquait la différence. Mais elle ne faisait pas des collections dont elle détermina les rapports. Avec la vue, elle pouvait à la vérité distinguer plusieurs couleurs qu'elle éprouvait ensemble. Mais elle ne remarquait pas qu'elles formassent des touts figurés. Elle sentait seulement qu'elle était tout à la fois de plusieurs manières. Ce n'est qu'avec le tact que, détachant ces modifications de son moi et les jugeant hors d'elle, elle en fait de tous différents combinés où elle peut démêler une multitude de rapports. L'attention dont elle est capable avec le toucher produit donc des effets bien différents de l'attention dont elle était capable avec les autres sens. Or, cette attention, qui combine les sensations, qui en fait au dehors des touts, et qui réfléchissant pour ainsi dire d'un objet sur un autre les compare sous différents rapports, c'est ce que j'appelle réflexion. Ainsi, l'on voit pourquoi notre statue, sans réflexion avec les autres sens, commence à réfléchir avec le toucher. Ce n'est qu'un corps à son égard. Un corps qu'elle touche n'est donc à son égard que les perceptions de grandeur, de solidité, de dureté, etc. Qu'elle juge réunie. C'est là tout ce que le tact lui découvre, et elle n'a pas besoin, pour former un pareil jugement, de donner à ses qualités un sujet, un soutien, ou comme parlent les philosophes, un substratum. Il lui suffit de les sentir ensemble. De quelle qualité elle compose les objets? Autant elle remarque de collections de cette espèce, autant elle distingue d'objets. Et elle ne les compose pas seulement des idées de grandeur, de solidité, de dureté, elle y fait encore entrer la chaleur ou le froid, le plaisir ou la douleur, et en général tous les sentiments que le tact lui apprend à rapporter au dehors. Ses propres sensations deviennent donc les qualités des objets. Si elles sont vives, telles qu'une chaleur violente, elle les juge en même temps dans sa main et dans le corps qu'elle touche. Si elles sont faibles, telles qu'une chaleur douce, elle ne les juge que dans ses corps. Ainsi, elle peut bien quelquefois cesser de les regarder comme à elle, mais elle ne cessera plus de les attribuer aux objets qui les occasionnent. C'est une erreur où des autres sens n'ont pu la faire tomber, puisqu'elle n'apercevait jamais ses sensations que comme son moi modifié différemment. Elle se fait des idées abstraites. Nous venons de voir que, pour rassembler dans les objets de qualité qui leur conviennent, elle a été obligée de les considérer chacune à part. Elle a donc fait des abstractions, car abstraire, c'est séparer une idée de plusieurs autres qui entrent avec elle dans la composition d'un tout. En ne donnant par exemple son attention qu'à la solidité d'un corps, elle sépare cette qualité des autres auxquelles elle n'a point d'égard. Elle fait de la même manière les idées abstraites de figure, de mouvement, etc. Et aussitôt chacune de ces notions se généralise, parce qu'elle remarque qu'il n'en est point qui ne convienne à plusieurs objets ou qui ne se retrouve dans plusieurs collections. On voit par là et par ce que nous avons dit en traitant des autres sens que les idées abstraites naissent nécessairement de l'usage que nous voulons faire de nos organes, que par conséquent, elles ne sont pas aussi éloignées de l'intelligence des hommes qu'on paraît le croire, et que leur génération n'est pas assez difficile à comprendre pour supposer que nous puissions les tenir que de l'auteur de la nature. On en saurait déterminer le nombre. Lorsque la statue était bornée aux autres sens, elle ne pouvait faire des abstractions que sur ses propres manières d'être. Elle en séparait certains accessoires, communs à plusieurs. Elle en séparait, par exemple, le contentement ou le mécontentement qui les accompagnait, et elle faisait par ce moyen les notions générales de manière d'être agréable et de manière d'être désagréable. Mais actuellement qu'elle s'est accoutumée à prendre ses sensations pour les qualités des objets sensibles, c'est-à-dire pour des qualités qui existent hors d'elle, et pour ainsi dire par groupe, elle peut les détacher chacune des collections dont elles font partie, les considérer à part et former des abstractions sans nombre. Mais n'ayant pas déterminé l'étendue de sa curiosité, nous n'entreprendrons pas de la suivre ici, dans toutes ses opérations. Elle étend ses idées sur les nombres. Sa curiosité ne la bornera pas à n'étudier que les objets qui l'environnent. Elle se touchera elle-même, et elle étudiera surtout la forme de cet organe avec lequel elle manie les corps. Elle examinera ses doigts, lorsqu'ils s'écartent, se rapprochent, se plient, frappés de la ressemblance qu'elle commence à découvrir entre ses mains. Elle sera curieuse d'en juger encore mieux. Elle observera ses doigts un à un, deux à deux, etc. Par là, elle multipliera ses notions abstraites sur les nombres et pourra apprendre que sa main droite a autant de doigts que sa main gauche. Qu'elle considère alors un corps, elle juge qu'il est un, comme un de ses doigts. Qu'elle en considère deux, elle juge qu'ils sont deux, comme deux de ses doigts. Voilà donc ses doigts devenus les signes des nombres. Mais nous ne pouvons assurer jusqu'où elle portera ces sortes d'idées. Il me suffit de prouver par ces détails qu'elles sont toutes renfermées dans le toucher et que notre statue les y remarquera suivant le besoin qu'elle aura de les acquérir. Ses autres idées en sont plus distinctes. Ayant étendu ses idées sur les nombres, elle sera plus en état de se rendre compte de ces notions abstraites. Elle pourra, par exemple, remarquer qu'elle forme sur un même objet jusqu'à 5 ou 6 abstractions, ou pour parler autrement, qu'elle peut y observer séparément jusqu'à 5 ou 6 qualités différentes. Auparavant, elle en apercevait seulement une multitude, qu'il ne lui était pas possible de déterminer, ce qui ne pouvait manquer d'y répandre de la confusion. Ses progrès sur les nombres contribueront donc à ceux de toutes ses autres connaissances. Elle ne s'élève pas aux notions abstraites d'être et de substance. Mais quelle que soit la multitude des objets qu'elle découvre, quelque combinaison qu'elle en fasse, elle ne s'élèvera jamais aux notions abstraites d'être, de substance, d'essence, de nature, etc. Ces sortes de fantômes ne sont palpables qu'au tact des philosophes. Dans l'habitude où elle est de juger que chaque corps est une collection de plusieurs qualités, il lui paraîtra tout naturel qu'elle existe réunie, et elle ne songera pas à chercher quel en peut être le lien ou le soutien. L'habitude nous tient souvent lieu de raison à nous-mêmes, et il faut convenir qu'elle vaut bien quelquefois les explications des philosophes. Les philosophes à ce sujet n'en savent pas plus qu'elle. Mais supposez que la statue fût curieuse de découvrir comment ces qualités existent dans chaque collection, elle serait portée comme nous à imaginer quelque chose qui en est le sujet, et si elle pouvait donner un nom à ce quelque chose, elle aurait une réponse toute prête aux questions des philosophes. Elle en saurait donc autant qu'eux, c'est-à-dire qu'ils n'en savent pas plus qu'elle. En effet, leurs définitions expliquées clairement n'apprennent, à un enfant même, que ce que les sens lui ont appris. Idée qu'elle se fait de la durée. Parmi les notions abstraites qu'elle acquiert, il y en a deux qui méritent quelques considérations particulières, ce sont celles de durée et d'espace. Dans le vrai, elle ne connaît la durée que par la succession de ses idées. Mais elle pourra se la représenter si sensiblement, en imaginant le passé par un espace qu'elle a parcouru, et l'avenir pour un espace à parcourir, que le temps sera à son égard comme une ligne, suivant laquelle elle se meut. Cette manière d'en juger lui paraîtrait même si naturelle qu'elle pourrait bien tomber dans l'erreur de croire qu'elle ne connaît la durée qu'autant qu'elle réfléchit sur le mouvement d'un corps. Quand on a plusieurs moyens pour se représenter une chose, on est ordinairement porté à regarder comme le seul celui qui est plus sensible. C'est une méprise que les philosophes mêmes ont peine à éviter. Aussi, Locke est-il le premier qui ait démontré que nous ne connaissons la durée que par la succession de nos idées. De l'espace. Comme elle connaît la durée par la succession de ses idées, elle connaît l'espace par la coexistence de ses idées. Si le toucher ne lui transmettait pas à la fois plusieurs sensations qu'il distingue, qu'il rassemble, qu'il circonscrit dans de certaines limites, et dont en un mot, il fait un corps, elle n'aurait l'idée d'aucune grandeur. Elle ne trouve donc cette idée que dans la coexistence de plusieurs sensations. Or, dès qu'elle connaît une grandeur, elle a de quoi en mesurer d'autres. Elle a de quoi mesurer l'intervalle qui les sépare, celui qu'elle occupe. En un mot, elle a l'idée de l'espace. Comme elle n'aurait donc aucune idée de durée, si elle ne se souvenait pas d'avoir eu successivement plusieurs sensations, elle n'aurait aucune idée d'étendue ni d'espace, si elle n'avait jamais plusieurs sensations à la fois. Partout où elle ne trouve point de résistance, elle juge qu'il n'y a rien, et elle se fait l'idée d'un espace vide. Cependant, ce n'est pas une preuve pour qu'il existe un espace sans matière. Elle n'a qu'à se mouvoir avec quelque vivacité pour sentir au moins un fluide qui lui résiste. De l'immensité. D'abord, elle n'imagine rien au-delà de l'espace qu'elle découvre autour d'elle, et en conséquence, elle ne croit pas qu'il y en ait d'autres. Dans la suite, l'expérience lui apprend peu à peu qu'il s'étend plus loin. Alors, l'idée de celui qu'elle parcourt devient un modèle, d'après lequel elle imagine celui qu'elle n'a point encore parcouru. Et lorsqu'elle a une fois imaginé un espace où elle ne s'est point transportée, elle en imagine plusieurs les uns hors des autres. Enfin, ne concevant point de bornes au-delà desquelles elle puisse cesser d'en imaginer, elle est comme forcée d'en imaginer encore, et elle croit apercevoir l'immensité même. De l'éternité. Il en est de même de la durée. Au premier moment de son existence, elle n'imagine rien, ni avant ni après. Mais lorsqu'elle s'est fait une longue habitude des changements auxquels elle est destinée, le souvenir d'une succession d'idées est un modèle d'après lequel elle imagine une durée antérieure et une durée postérieure, de sorte que ne trouvant point d'instant dans le passé ni dans l'avenir, au-delà duquel elle ne puisse pas en imaginer d'autres, il lui semble que sa pensée embrasse toute l'éternité. Elle se croit même éternelle, car elle ne se rappelle pas qu'elle ait commencé et elle ne soupçonne pas qu'elle doit finir. Les deux dernières ne sont qu'une illusion de son imagination. Cependant, elle n'a dans le vrai ni l'idée de l'éternité ni celle de l'immensité. Si elle juge le contraire, c'est que son imagination lui fait illusion en lui représentant comme l'éternité et l'immensité même une durée et un espace vagues dont elle ne peut fixer les bornes. Les sensations sont des idées pour la statue. À chaque découverte qu'elle fait, elle éprouve que le propre de chaque sensation est de lui faire prendre connaissance ou de quelque sentiment qu'elle juge en elle ou de quelque qualité qu'elle juge au dehors, c'est-à-dire que le propre de chaque sensation est pour elle ce que nous appelons idée, car toute impression qui donne une connaissance est une idée. En quoi elle diffère des idées intellectuelles? Si elle considère ses sensations comme passées, elle ne les aperçoit plus que dans le souvenir qu'elle en conserve, et ce souvenir est encore une idée, car il redonne ou rappelle une connaissance. J'appellerai ces sortes d'idées pures ou intellectuelles, ou simplement idées, pour les distinguer des autres que je continuerai de nommer sensations. Une idée intellectuelle est donc le souvenir d'une sensation. L'idée intellectuelle de solidité, par exemple, est le souvenir d'avoir senti de la solidité dans un corps qu'on a touché. L'idée intellectuelle de chaleur est le souvenir d'une sensation qu'on a eue. Et l'idée intellectuelle de corps est le souvenir d'avoir remarqué dans une même collection de l'étendue, de la figure, de la dureté, etc. Différence que la statue met entre ses idées et ses sensations. Or, notre statue sent une différence entre éprouver actuellement des sensations et se souvenir de les avoir eues. Elle les distingue donc de ce que j'appelle idées pures. Elle remarque qu'elle a de ces sortes d'idées sans rien toucher et qu'elle n'a des sensations qu'autant qu'elle touche. La raison qui lui a fait juger ses sensations dans les objets ne peut lui faire porter le même jugement sur ses idées intellectuelles. Celles-ci lui paraissent donc comme si elle ne les avait qu'en elle-même. Si les sensations sont la source de ses connaissances, les idées en deviennent le fond. Par les sensations, elle ne connaît que les objets présents au tact. C'est par les idées qu'elle connaît ce qu'elle a touché et qu'elle ne touche plus. Elle ne juge même bien des objets qu'elle touche qu'autant qu'elle les compare avec ceux qu'elle a touchés. Et comme les sensations actuelles sont la source de ses connaissances, le souvenir de ses sensations passées, où les idées intellectuelles en sont tout le fond, c'est par leur secours que les nouvelles sensations se démêlent et se développent toujours de plus en plus. Sans les idées, elle jugerait mal des objets qu'elle touche. En effet, lorsqu'elle touche un objet, elle ne jugerait point de sa grandeur ni de ses degrés de dureté, de chaleur, etc., si elle ne se souvenait pas d'avoir manié d'autres grandeurs, où elle a trouvé d'autres degrés de dureté et de chaleur. Mais dès qu'elle s'en souvient, elle juge par comparaison cet objet plus ou moins grand, plus ou moins dur, plus ou moins chaud. C'est donc au souvenir ou à l'idée intellectuelle qu'elle conserve de certaines grandeurs, de certains degrés de dureté et de chaleur, qu'elle juge des nouveaux objets qu'elle a rencontrés. C'est ce souvenir qui, lui faisant faire des comparaisons, lui fait remarquer les différentes idées ou connaissances que les sensations actuelles lui transmettent. Elle ne remarque pas que dans l'origine, les idées et les sensations sont la même chose. Cependant, puisque nous avons vu que le souvenir n'est qu'une manière de sentir, c'est une conséquence que les idées intellectuelles ne diffèrent pas essentiellement des sensations mêmes. Mais vraisemblablement, notre statue n'est pas capable de faire cette réflexion. Tout ce qu'elle peut savoir, c'est qu'elle a des idées qui lui servent pour régler ses jugements et qui ne sont pas des sensations. Supposez donc qu'elle eut occasion de réfléchir sur l'origine de ses connaissances. Voici, je pense, comment elle raisonnerait. Mauvais raisonnement qu'elle pourrait faire. Mes idées sont bien différentes de mes sensations, puisque les unes sont en moi et les autres au contraire dans les objets. Or, connaître, c'est avoir des idées. Mes connaissances ne dépendent donc d'aucune sensation. D'ailleurs, je ne juge des objets qui font sur moi des impressions différentes que par la comparaison que j'en fais aux idées que j'ai déjà. J'ai donc des idées avant d'avoir des sensations. Mais ces idées, me les suis-je données à moi-même? Non, sans doute. Comment cela serait-il possible? Pour se donner l'idée d'un triangle, ne faudrait-il pas déjà l'avoir? Or, si je l'avais, je ne me la donne pas. Je suis donc un être qui, par moi-même, est naturellement des idées. Elles sont nées avec moi. Les idées étant le fond de toutes nos connaissances, elles constituent plus particulièrement ce que nous sommes, l'être pensant, et quoique les sensations soient le principe de la pensée et n'appartiennent dans le vrai qu'à l'âme, elles paraissent s'arrêter dans le corps et être tout à fait inutiles à la génération des idées. Notre statue ne manquerait donc pas de tomber dans l'erreur des idées innées, si elle était capable, comme nous, de se perdre dans de vaines spéculations. Mais ce n'est pas la peine d'en faire un philosophe pour lui apprendre à raisonner si mal. Conclusion de ce chapitre. N'ayant pas déterminé jusqu'où elle portera sa curiosité, principal mobile des opérations de son âme, je n'entreprends pas d'entrer dans un plus grand détail des connaissances que la réflexion peut lui faire acquérir. Il suffit d'observer que tous les rapports des grandeurs étant renfermés dans les sensations de tact, elle les remarquera lorsqu'elle sera intéressée à les connaître. Mon objet n'est pas d'expliquer la génération de toutes ces idées, je me borne à démontrer qu'elles lui viennent par les sens et que ce sont ses besoins qui lui apprennent à les démêler.